La présence de terroristes au Kurdistan irakien porte atteinte aux liens Téhéran-Bagdad, souligne le ministre iranien des Affaires étrangères. Inondation en Libye, plus de 2000 morts. L'Iran présente ses condoléances et le bilan des victimes du séisme au Maroc dépasse les 2800. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la présence de terroristes dans la région du Kurdistan irakien viole la constitution du pays arabe et n'était pas en harmonie avec les relations cordiales entre Téhéran et Bagdad. Amir Abdollahian a fait cette déclaration lors d'une réunion avec Bafel Talabani, chef de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, UPK, lundi 11 septembre à Téhéran. Cette rencontre a eu lieu avant la date limite fixée par l'Iran et l'Irak pour désarmer et déplacer les groupes terroristes basés dans la région semi-autonome du Kurdistan. La présence de terroristes dans la région du Kurdistan et leurs actions contre la sécurité de l'Iran sont incompatibles avec la constitution irakienne et les relations bilatérales amicales, car aucune partie ne devrait être autorisée à porter atteinte à la sécurité des voisins de l'Irak, a déclaré le plus haut diplomate iranien. Il a ajouté que l'Iran était favorable à un Irak indépendant, prospère et développé, soulignant que Téhéran et Bagdad entretenaient des liens étroits. Pour sa part, Talabani a salué le soutien continu de l'Iran au gouvernement et à la nation irakienne. Nous sommes fiers de nos relations et de notre amitié avec la République islamique d'Iran. Il a mentionné les mesures prises par son parti pour renforcer la sécurité le long des frontières de la région du Kurdistan, soulignant que l'Irak ne permettra pas que des dommages soient causés depuis son territoire aux pays de la région, en particulier l'Iran. Téhéran condamne l'attaque contre son ambassade à Paris. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a commenté lundi 11 septembre la récente attaque contre l'ambassade d'Iran en France, qu'il a fermement condamnée. Nasser Kanani a noté que la République islamique d'Iran avait envoyé une notification formelle de protestation à l'ambassade de France à Téhéran et au ministère français des Affaires étrangères à Paris. Samedi, des membres de groupes contre-révolutionnaires anti-iraniens ont attaqué la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Paris. Les assaillants ont brûlé des pneus devant l'entrée du consulat, causant quelques dégâts mineurs. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que la France était responsable d'assurer la sécurité de l'ambassade et des installations diplomatiques iraniennes en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Il a ajouté que l'ambassadeur de France à Téhéran avait fermement condamné cet acte lors d'une réunion avec le chef du département Europe occidentale du ministère des Affaires étrangères et avait souligné que les autorités françaises poursuivaient l'affaire pour identifier les assaillants et leur demander des comptes. Un convoi appartenant à la coalition dirigée par les États-Unis aurait transféré du matériel militaire, des munitions et du carburant depuis des bases américaines en Irak vers la Syrie voisine. Citant des sources anonymes, la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin a rapporté que le convoi était entré lundi soir dans l'est de la Syrie par le poste frontière de Faish Khabour dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien. L'armée américaine a renforcé ces derniers mois sa présence militaire en Syrie, un pays aux prises avec des terroristes soutenus par l'étranger depuis 2011. L'Irak a dénoncé à plusieurs reprises le déploiement comme étant illégal. Le mois dernier, le Pentagone a envoyé un convoi vers la base de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie via le poste frontière d'Al-Walid entre l'Irak et la Syrie. Composé d'une cinquantaine de véhicules, le convoi a atteint le 14 août les bases américaines du champ de gaz naturel de Conico et du champ pétrolier d'Al-Omar. Le Pentagone affirme que le déploiement de ses forces et équipements en Syrie vise à empêcher que les champs pétroliers ne tombent entre les mains des terroristes Daesh. Damas, de son côté, maintient que ce déploiement vise à piller les ressources naturelles du pays arabe. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances au peuple et au gouvernement libyen suite à la tempête et aux inondations dans certaines villes libyennes et aux pertes de vies humaines et à la disparition d'un grand nombre de citoyens de ce pays. Des régions de l'Est libyen font face depuis dimanche au cyclone Daniel qui a provoqué des inondations qui ont fait plus de 2000 morts, selon un bilan provisoire des autorités libyennes. Ce cyclone a balayé les villes de Benghazi, Al-Baïda, Al-Marj, Sousse et Derna, faisant plus de 2000 morts et 1270 blessés, selon un bilan officiel provisoire. Un précédent bilan faisait état de 150 morts. Des images tournées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violence du cyclone Daniel, les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'Est libyen et des quartiers entiers inondés. Le bilan des victimes du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis plus de 6 décennies s'élève à plus de 2 800, alors que les sauveteurs courent contre la montre pour retrouver des survivants. Des équipes de recherche d'Espagne, de Grande-Bretagne et du Qatar se sont jointes lundi, 11 septembre, aux efforts de secours marocains, après qu'un séisme de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir dans les montagnes du Haut Atlas, dont l'épicentre se trouve à 72 km au sud-est de Marrakech. La télévision d'État a rapporté que le bilan s'élevait à 2 862 morts et 2 562 blessés. Les sauveteurs ont déclaré que les maisons traditionnelles en briques crues, omniprésentes dans la région, réduisaient les chances de retrouver des survivants, car elles s'étaient effondrées. Après une première réponse qualifiée de trop lente par certains survivants, les efforts de recherche et de sauvetage ont semblé s'accélérer lundi, avec l'apparition de camps de tentes dans certains endroits où les gens se préparaient pour une quatrième nuit en plein air. Washington s'apprête à approuver la fourniture à l'Ukraine de missiles à plus longue portée remplis de bombes à fragmentation. Selon un rapport publié lundi 11 septembre, l'administration Biden pourrait finalement livrer à Kiev des missiles ATACMS ou GMLRS. Les États-Unis seraient sur le point d'approuver l'armement de l'Ukraine avec des missiles à plus longue portée équipés de bombes à fragmentation, malgré les craintes généralisées que ces missiles ne fassent des victimes civiles sans discernement. Selon 3 responsables américains anonymes, Washington envisage d'expédier les 2 systèmes de missiles tactiques de l'armée ATACMS capables de voler jusqu'à 306 km ou des missiles guidés à lancement multiple GMLRS d'une portée de 72 km remplis de bombes à fragmentation. L'Ukraine est actuellement équipée d'une artillerie de 155 mm d'une portée maximale de 30 km et pouvant transporter jusqu'à 40 vies bombes. L'ATACMS peut tirer environ 300 bombes ou plus, tandis que le système de fusée GMLRS est capable de disperser jusqu'à 404 bombes à sous-munitions. Si les 2 systèmes sont approuvés, l'une ou l'autre option serait disponible pour une expédition rapide à Kiev, indique le rapport. Ces munitions seraient utilisées contre les forces russes déployées dans les territoires ukrainiens, dont la population a voté en faveur du rattachement à la Russie depuis le début de la guerre. Washington a alloué plus de 40 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev depuis le début de la guerre en février dernier. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le projet de réforme judiciaire de Netanyahou a causé de lourds dégâts à l'armée israélienne. Le ministre de la guerre du régime sioniste a admis que le projet de réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou avait imposé un coût élevé à l'armée et aux institutions de sécurité de ce régime. Le ministre de la guerre du régime sioniste, Yoav Gallant, a reconnu lundi que le projet controversé de réforme judiciaire du premier ministre Benjamin Netanyahou avait causé des pertes insupportables à l'armée et aux institutions sécuritaires israéliennes. Le ministre de la guerre de l'entité israélienne a déclaré avoir demandé en mars 2023 à Netanyahou d'arrêter la mise en œuvre de ce plan en raison de ses dommages à la sécurité intérieure du régime sioniste, ce qui avait conduit à un désaccord entre lui et Netanyahou. L'approfondissement des divisions pénètre les institutions militaires et sécuritaires. Il s'agit d'un danger clair, immédiat et réel pour la sécurité d'Israël, avait-il alors mis en garde. Un journal israélien a toutefois reconnu le mois dernier, dans un rapport, que l'armée d'occupation dissimulait strictement l'ampleur de la désobéissance militaire suite à la crise interne de ce régime. L'armée ne révèle pas l'ampleur de la protestation des militaires réservistes contre le projet d'affaiblissement du système judiciaire, prétextant que les ennemis d'Israël en seraient informés et craignant de nouvelles atteintes au moral des troupes. Elle voulait également empêcher l'élargissement du fossé au sein de l'armée, précisait le rapport. Dans un article publié le mois dernier, le journal de gauche Haaretz a écrit que les responsables de l'armée israélienne déclarent qu'ils ne divulgueraient jamais les détails et le nombre de forces ayant refusé de servir, sous prétexte qu'ils ne veulent pas que les ennemis d'Israël profitent de ces informations.